Bonjour madame, bonjour mademoiselle, bonjour monsieur, auditeur de Radio Silence. Je vous délivre aujourd'hui ma chronique numéro 11, Finance Vérité, avec le titre Un bon jugement exige du recul. C'est ainsi que je me suis vu asséner, comme vous, une statistique de chômage en réduction il y a 2-3 jours par les médias. Je me suis donc intéressé dans l'actualité économique générale à récolter les statistiques disponibles aux sources sur le chômage en France métropolitaine seulement. Ne retenant que les données brutes, comme il faut, tout d'abord, sur le site internet de l'INSEE, je vis que les chiffres connus allaient de février 92 à février 2009. Il s'agit d'une rétropolation pour la période antérieure à 1995 avec la méthode postérieure. Cette année-là, le gouvernement a cessé de s'intéresser aux catégories 4 et 5 des chômeurs et n'a plus retenu que 6 catégories, les catégories 1, 2, 3 et 6, 7, 8. Cette réforme de 1995 a décidé que depuis lors, on ne tient plus compte officiellement des sans-emploi non immédiatement disponibles, pour cause de formation, maladie, maternité, comme de ceux ayant un emploi mais se trouvant à la recherche d'un autre. Désormais, on ne retient plus que 6 classements divisionnaires, 3 à la recherche de CDI à temps plein, temps partiel ou de CDD n'ayant eu aucune activité professionnelle le mois précédent, catégorie 1, 2, 3, et 3 encore, ayant eu une activité professionnelle égale ou supérieure à 78 heures le mois précédent, avec la même ventilation, c'est les catégories 6, 7, 8. Il existe donc 8 catégories historiques, mais seulement 6 actives depuis 14 ans. J'ai alors voulu rechercher dans mes archives les valeurs du chômage de 72 à 92. J'ai retrouvé dans le bulletin mensuel de la Banque de France numéro 17 de novembre 1975 le total du chômage en 72. Aucune ventilation disponible du chiffre brut de février 72, 413 100 chômeurs. Le chiffre de février 92, 20 ans plus tard, total brut que j'ai retrouvé dans le bulletin trimestriel de la Banque de France numéro 84, l'indique comme étant celui de l'ensemble des chômeurs de longue durée. 2 938 300. Nous sommes donc passés officiellement de 413 100 à 2 938 300 en 20 ans de 1972 à 1992. Je me rappelle aussi que lors du fameux débat télévisé de Valéry Giscard d'Estaing contre Mitterrand en 81, Mitterrand avait reproché au titulaire de la charge présidentielle le chiffre alors connu de 800 000 chômeurs, qui avait donc doublé depuis 1972. Lui-même, Mitterrand, s'engageait avec les méthodes communistes qu'il fit alors siennes à rétablir le plein emploi, notamment en embauchant force fonctionnaire. On a vu ensuite ce que ça a donné. Le chiffre est passé de 800 000 à 2 938 300 officiellement. Ce fut la fameuse génération des nouveaux pauvres. Cependant, grosse surprise, la rétropolation de 92 de l'INSEE indique un total général de ces 6 catégories additionnées de seulement 1 231 991. La catégorie 1 ne regroupant plus que 919 323 chômeurs de longue durée, au lieu des 2 938 300 précédemment recensés par le bulletin trimestriel de la Banque de France, lui-même sourcé à l'INSEE. Pourtant, dans la foulée, en février 2009, il n'y a plus que 561 170 chômeurs de catégorie 1, et si l'on en croit les médias, il y aurait encore une diminution probable en juin. Ils ont dit moins 18 000. Personne ne donne le chiffre total de l'ensemble des chômeurs des 6 catégories de classement officiel réunis, qui est de 1 666 016 en février 2009. Dernier chiffre sûr connu sur le site internet de l'INSEE, à ce jour, 28 juillet. soit environ un tiers de plus qu'en 92, toujours officiellement. On voit donc que si l'effort gouvernemental de saisie des réalités des situations vécues par les populations résidentes est sans doute réel, nous sommes infiniment loin de la transparence qui sied obligatoirement à une démocratie véritable. Nous sommes loin de connaître les réalités vraies dans tous leurs détails et un nouveau classement plus transparent reste à faire afin de permettre un vrai débat démocratique. Mon conseil patrimonial du jour est de continuer à vous intéresser aux marchés financiers qu'il faut privilégier plutôt que celui des pseudo-placements bancaires. Vous voyez bien que le ministre des Finances admet, sans sourciller, que les intermédiaires, banques et caisses diverses, vous rémunèrent votre épargne à 1% net des ponctions dites sociales diverses et vous prêtent à crédit avec des taux d'agio totaux dépassant les 20% assurance imposée incluse. Cela leur laisse une marge commerçante de 1900%. Nous attendons les soldes. Bizarre, il n'y en a jamais chez ce genre de commerçants. Les compagnies d'assurance utilisées dans les contrats de prêt, je vous le signale, sont en effet propriétaires des banques depuis que le ministre des Finances communiste Jack Ralit obéit alors à la politique bruxelloise de resolvabilisation des banques à 8% de fonds propres. Seulement. Mais n'allez placer vos économies sur le marché primaire de préférence, ou secondaire a fortiori, que sous la conduite de professionnels expérimentés qui ont accepté, comme moi-même depuis 92, de se mettre au service exclusif des gens après avoir démissionné du système et rompu tout lien avec lui à l'image des conseillers fiscaux. La connaissance approfondie du système est une condition sine qua non du véritable conseil financier qui ne peut être qu'indépendant. Chapitre 11 également de mon histoire de la monnaie, d'où le titre 1260-1314, une époque actuelle. Il s'agit de la conclusion de nos chapitres précédents 8, 9 et 10, qui peut se résumer de la manière suivante, sans la connaissance du passé, il n'y a aucune possibilité de comprendre le présent. C'est ainsi qu'un jour, je me livrai à quelques recherches dans le but d'offrir à mes étudiants de l'Institut de formation bancaire, IFB, à Paris, entre 89 et 92, une analyse comparative concrète des deux époques, celle de Philippe Lebel et la nôtre, 7 siècles plus tard. Ils étaient toujours friands de ce genre d'histoire inédite et instructive. J'eus l'idée de comparer le pouvoir d'achat de la solde d'un soldat de Châteaufort non exposé de 1260 à 1314, et celle d'un marin du Clémenceau envoyé par Mitterrand sans ses avions, rappelons-nous, dans le Golfe. Donc il n'était pas particulièrement exposé non plus. En 1290, tout à fait précisément, le soldat touchait 2 livres tournois environ par mois. À 240 deniers la livre tournois, soit 500 petits deniers, il disposait d'un pouvoir d'achat mensuel de 100 pains, à 5 petits deniers le pain rond de 2 kg de l'époque. En 1991, un marin appelé du Clémenceau, à la mer, mais réputé non exposé, percevait 1200 francs par mois de solde. Dans une très grande surface connue alors pour casser les prix, le pain dit de campagne, et je fais le jeu de mots bien sûr, de 2 kg aussi, était vendu 12 francs. Le marin du Clémenceau disposait donc d'un pouvoir d'achat mensuel de 100 pains de campagne. Mes étudiants n'en revenaient pas. Sidérant, non ? Malgré toutes les fluctuations monétaires, les guerres et les chocs économiques depuis lors, c'était le même pouvoir d'achat. J'avais d'ailleurs été surpris moi aussi, et j'avais refait mes calculs au moins 20 fois. Si donc l'économique et le social se valaient grosso modo, et même très précisément dans le cas particulier d'un soldat, qu'en était-il de l'économie monétaire en général? Le mot « argent » continuait d'être couramment utilisé comme avant, mais ne recouvrait plus tout à fait les mêmes réalités. Bien sûr, des pièces à teneur partielle d'argent pur circulaient toujours, comme la pièce de 5 francs 59, équivalente à 100 sous. Mais la pièce de 1 franc valant 20 sous, elle, n'était plus qu'en acier inoxydable. La plupart de nos pièces ne sont plus que des jetons calibrés pour les machines automatiques. La principale circulation monétaire est de papier, dans les années 60 encore, à environ 60%. Mais en 1990, la principale composante de la masse monétaire en circulation est devenue scripturale à 95%. Tandis que Philippe Lebel était obligé de tenir compte des aléas des cours et des quantités disponibles d'argent métal et faisait fluctuer les teneurs en argent des pièces émises, mais à chaque fois en affichant la teneur par des coins différents, et donc ne faisait pas de fausse monnaie, par contre, la République actuelle laisse varier le cours de la monnaie officielle, toujours la même pourtant, toujours identique, toujours similaire, et escroque donc les gens du pouvoir d'achat extérieur de celle-ci. Malheureusement, de plus en plus, la monnaie de singe officielle enferme les gens à l'intérieur de la zone monétaire considérée, officiellement, avec une possibilité de change souvent réduite, voire même quelquefois à zéro. Donc, si les réalités économiques et sociales, le pouvoir d'achat économique et les avatars monétaires sont en gros identiques, par contre, la rectitude du roi de France a laissé la place à l'escroquerie monétaire de la République, laquelle profite de la dématérialisation de la monnaie actuellement pour échafauder une pyramide énorme d'escroqueries imbriquées. La fausse monnaie républicaine actuelle émise par un régime officiellement faux monnayeur représente le comble de l'escroquerie en 3500 ans d'histoire monétaire depuis le code d'Hammurapi. Nous en aurons toutes les preuves lorsque nous arriverons à la fin de notre histoire de la monnaie au XXe siècle. Dans notre prochain chapitre, le numéro 12, nous aborderons avec le premier franc en 1360 dans la foulée la formidable dévaluation monétaire infligée à ses sujets par Catherine de Médicis. Voilà, bonsoir madame, bonsoir mademoiselle, bonsoir monsieur. Je vous souhaite encore un bon mois d'août et à mi-août.